Bonsoir et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale, 20h30 ici à Paris, 18h30 à Bamako et Accra et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
À la une de cette édition, la République démocratique du Congo, une veillée funèbre à Kinshasa pour rendre hommage à la légende du basket Dikembe Mutombo, star de la NBA dans les années 90 et mort à l'âge de 58 ans. La veillée a lieu dans un hôpital qu'il a construit. Olga Massangou est sur place pour RFI. Relancer le processus de la réconciliation nationale en Libye, c'est l'objet de la visite de 48 heures d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine. L'Union africaine pourra-t-elle peser sur la scène politique libyenne? Ce sera le dossier d'Afrique Soir avec Ouda Ibrahim. Le procès à Paris du journaliste franco-camerounais Charles Onana, jugé pour contestation de crimes de génocide. Dans l'actualité également, le déploiement de policiers kényans en Haïti. On en parle à Nairobi, où s'est rendu le Premier ministre haïtien. Ces policiers kényans sont chargés de lutter contre les gangs qui sèment la terreur à Port-au-Prince. Le football est la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. 16 matchs au programme ce vendredi. Et puis musique, nous irons à Marseille, 33e édition de la Fiesta des Suds avec des affiches alléchantes. Le Nigérian Sean Kuti en concert avec les frères Smith ou encore Claude MC alias MC Solar. Hortense Vol nous fera vivre cette ambiance au bord de la mer Méditerranée. C'est une soirée très particulière qui se déroule ce soir dans un hôpital de Kinshasa. C'est là que vous vous trouvez, Olga Massangou. C'est une veillée funèbre à la mémoire de la légende du basket, Mutombo Dikembe, star de la prestigieuse ligue américaine NBA, disparue le 30 septembre dernier à Atlanta, aux États-Unis. Olga, c'est un hôpital qu'il a construit il y a 17 ans. Il y a déjà beaucoup d'émotions sur place.
Exactement, Sylvie, plus qu'un hommage à Mutombo Dikembe, cette cérémonie vise surtout à démontrer l'amour et la reconnaissance du personnel de l'hôpital Marie Biamba Mutombo envers celui qu'ils appelaient affectueusement le chairman. Ils ont décidé de passer la nuit à la Belle Étoile, à la cour de l'hôpital, pour pleurer celui qui a financé et construit l'institution médicale qui les emploie depuis 17 ans, vous l'avez dit, et à travers cette cérémonie funéraire, de communier avec la famille de l'illustre disparu qui se trouve à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Un livre des condoléances a été ouvert sur place à l'hôpital et des personnalités du quartier, de la commune, de la ville, ainsi que des patients qui ont bénéficié des soins de cet hôpital défilent pour y laisser quelques mots en hommage à Mutombo Dikembe. Construit pour 15 millions de dollars américains et inauguré en 2007, l'hôpital Marie Biamba Mutombo, qui fait partie des nombreuses œuvres sociales et humanitaires réalisées en RDC par le basketteur, est un véritable soulagement, surtout pour les habitants de la commune de Massina, commune populaire de la partie est de Kinshasa. Il est le centre hospitalier, l'un des plus importants et des mieux équipés de la capitale Kinshasa. Une nuit que les Congolais vont passer à pleurer Mutombo, puisqu'en ce moment, sur demande du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, une autre veillée mortuaire ouverte au public se déroule au gymnase jumelé du Stade des Martyrs, un gymnase qui a été construit à l'occasion des 9e Jeux de la Francophonie et qui sera d'ailleurs baptisé en son nom.
Merci Olga Massangou en direct de Kinshasa. Dernier jour du procès de Charles Onana ce vendredi à Paris. L'auteur franco-camerounais est poursuivi pour contestation du crime de génocide, celui des Tutsis au Rwanda en 1994, suite à des propos tenus dans son livre « Opération Turquoise, une vérité qui dérange ». L'accusé plaide la relaxe, il se défend de nier le génocide, le verdict est mis en délibéré. Il sera connu le 9 décembre prochain. Au Niger, des mesures de rétorsion inédites contre 9 personnalités soupçonnées de complot, de trahison et d'intelligence avec une puissance étrangère contre le pouvoir en place à Niamey. Hier soir, le président Tiani a décrété le retrait de la citoyenneté nigérienne à des hommes réputés proches de l'ex-président Bazoum, une déchéance de nationalité qui est du jamais vu au Niger, selon Dr Adamou Issoufou. Il est professeur de droit public à l'université Cheikh Diop à Dakar. Il explique les lourdes de conséquences que cela entraîne pour les personnes concernées.
La déchéance des nationalités est un acte assez grave quand même pour les citoyens concernés, parce qu'il y a un certain nombre de droits civils et politiques dont l'exercice, n'est-ce pas, est lié à la nationalité, à la possession de cet État. Alors, lorsqu'on est déchu de sa nationalité, donc on ne peut pas jouir de ses droits civils et politiques. Donc, le droit, par exemple, de participer à une élection en qualité d'électeur ou en qualité de candidat, le droit d'exercer une fonction publique, n'est-ce pas, dans son pays. En tout cas, dans toutes les activités, dans toutes les missions, dans toutes les actions où le certificat de nationalité est exigé, donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, exercer ces fonctions. Donc c'est lié à votre nationalité et cette nationalité étant retirée, il vous manque, n'est-ce pas, une condition fondamentale. Donc c'est cette condition liée à la possession de cette nationalité.
Des propos recueillis par Frédéric Gara. Et en Guinée, le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, ordonne le retour sans délai au pays de ses ministres en déplacement à l'étranger. Il est aussi interdit à ces derniers, et ce jusqu'au 31 décembre, de sortir du pays, sauf accord exceptionnel du chef de l'État. Pour le porte-parole du gouvernement, ces mesures sont prises pour faire des économies.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Le premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenu ce matin à Abidjan. Les deux pays voisins ont convenu de renforcer leur coopération économique mais aussi sécuritaire. Compte rendu, Binta Diagne.
Accra et Abidjan s'engagent à mutualiser leurs efforts en matière agricole, notamment pour lutter contre la contrebande dans le secteur du cacao, mais aussi pour augmenter les capacités de transformation des fèves de cacao au niveau local. Il s'agit par ailleurs de mutualiser les efforts sur le plan sécuritaire en organisant par exemple des exercices conjoints des forces de défense et de sécurité, de mettre l'accent sur l'échange de renseignements. Au niveau sous-régional, les deux chefs d'État, ivoiriens et ghanéens, veulent relancer un projet important, l'écho, la monnaie commune. Ce projet a été ralenti par le contexte économique défavorable lié notamment à la pandémie de Covid-19 et la hausse des taux d'intérêt ainsi que les déficits budgétaires, explique Alassane Ouattara. Mais le chef de l'État ivoirien se veut optimiste. Nous travaillons pour que l'année prochaine, 2026 au plus tard, nous ayons une convergence pour mettre en place l'écho, a-t-il indiqué. Un optimisme porté par la visite cette semaine d'une délégation du Fonds monétaire international qui a validé une nouvelle tranche de financement de son aide économique évaluée à 825 millions de dollars et qui a surtout approuvé les réformes fiscales menées par Abidjan pour réduire son déficit budgétaire. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
En bref, pas de répit pour l'opposition en Tunisie. Ayachi Zamel, le candidat malheureux à la présidentielle du 6 octobre, écope de nouvelles peines de prison, ce qui porte à plus de 20 ans de détention ses condamnations pour des affaires liées au parrainage. Cet homme d'affaires est en détention depuis début septembre, ce qui l'a empêché de faire campagne. Il n'a obtenu que 7,35% des voix lors de l'élection présidentielle, remportée, vous le savez, haut la main, 90,7% des suffrages dimanche par le président sortant Kais Saied, un scrutin marqué par un taux d'abstention record, à peine 29% de taux de participation. Aujourd'hui à Tripoli, demain à Benghazi, une délégation de haut niveau de l'Union africaine est en Libye pour proposer aux protagonistes une sortie de crise. Cette délégation est dirigée par le président en exercice de l'UA, le mauritanien Mohamed Ould Cher El Razaouni. Présent aussi chez Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA, et Jean-Claude Gakosso, le ministre congolais des Affaires étrangères. Et l'Union africaine en est convaincue, il n'y aura pas d'élection possible sans réconciliation préalable. Ouda Ibrahim.
C'est donc une nouvelle tentative qu'effectue l'Union africaine pour avancer sur ce dossier libyen. La délégation africaine de haut niveau estime qu'elle s'est déplacée en Libye dans le cadre de ses efforts continus pour la réconciliation, une question décisive selon l'UA pour permettre la tenue des élections. Elle appelle à unir les efforts de tous les pays pour avancer, mais la communauté internationale reste toujours divisée sur ce dossier. Les responsables africains ont rencontré le premier ministre de Tripoli, Abdelhamid. Selon la plateforme gouvernementale, le président mauritanien Razouani a affirmé que le comité de haut niveau poursuivra son travail pour arriver à la réconciliation nationale. Il a jugé nécessaire le retour de la Libye pour occuper sa place centrale au sein de l'Union africaine. L'année dernière, après de longs mois d'efforts fournis pour rapprocher le point de vue des Libyens, une date avait été trouvée pour la tenue de conférences de réconciliation. Elle est finalement tombée à l'eau après la démission de Abdoulaye Batili, l'envoyé spécial de l'ONU, ce qui a contraint le comité à ajourner le rendez-vous Aucune date n'a encore été annoncée.
Alors quel est le poids de l'Union africaine sur la scène politique libyenne? Peut-elle peser sur les protagonistes pour une sortie de crise? Selon Jalel Archaoui, chercheur au Royal United Services Institute, l'UA n'a pas les moyens d'interférer dans ce pays. Il répond Nicolas Sûr.
C'est un thème sur lequel l'Union africaine insiste depuis plusieurs années. C'est le thème de la réconciliation. C'est un thème qui a été d'ailleurs incorporé par l'ONU sous l'envoyé spécial Abdoulaye Batili, le prédécesseur de Stéphanie Rolli, qui est actuellement intérimaire, donc responsable de la mission onusienne en Libye. Donc il y a toujours un petit peu un malaise, le thème de la réconciliation un petit peu décalé, puisqu'il n'y a pas vraiment un conflit très vif. Les acteurs libyens eux-mêmes font beaucoup plus attention à des acteurs qui sont pas africains, à l'exception de l'Égypte, c'est surtout la Turquie, les Émirats arabes unis, les États-Unis qui comptent pour les différentes factions. Donc c'est toujours un petit peu gênant de faire de l'espace pour l'Union africaine. Et là, le thème, comme je le disais, c'est celui de la réconciliation. Donc c'est un processus lent qui est un thème différent de celui des élections, par exemple. Donc voilà, l'Union africaine est un acteur qui a la réputation de ne pas avoir d'importance pour le théâtre libyen depuis 2011.
L'Afrique a beaucoup plaidé en vain depuis le début de la crise pour son implication dans sa résolution. Est-ce qu'elle a des canaux de communication privilégiés avec les acteurs de cette crise libyenne?
Disons que c'est un espace diplomatique qui a été utilisé à certains moments quand ça convenait aux acteurs libyens. Mais il n'y a pas vraiment l'attente d'une vraie influence. Moi, je me souviens par exemple de cette délégation d'avril 2011 qui avait essayé d'insuffler une espèce de logique de conciliation. Il y avait dans cette délégation de haut niveau la présence de Jacob Zuma d'Afrique du Sud qui venait de voter en faveur de l'intervention militaire de l'OTAN. Donc il y avait toujours une contradiction au sein de l'attitude de l'Union africaine. Donc cet espace diplomatique s'est utilisé dans les moments un peu calmes où on a besoin de se distancier par rapport aux Occidentaux. Mais il n'y a jamais vraiment l'espérance d'une vraie influence. À l'exception de l'Égypte, les factions libyennes qui ont de l'importance sur le terrain savent très bien que l'Union africaine n'a pas beaucoup d'effet, même pas capable d'interférer, que ce soit d'une manière positive ou négative.
Voilà donc des propos recueillis par Nicolas Sûr, c'était le chercheur Jalel Archaoui. Au Kenya, le premier ministre haïtien Gary Corny s'est entretenu avec le président William Ruto à Nairobi, une rencontre largement consacrée à la question de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Sous l'égide de l'ONU, cette mission pilotée par Nairobi doit aider les autorités haïtiennes à lutter contre les gangs. 400 policiers kenyans sont sur place depuis juin et d'autres devraient arriver bientôt. Gaël Alex.
600 policiers sont en train d'achever leur entraînement et rejoindront Haïti le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin William Ruto. Lors de sa visite à Port-au-Prince le mois dernier, le président kényan évoquait plutôt un déploiement d'ici janvier. Les choses se sont donc accélérées, comme le demandait le premier ministre haïtien, qui a loué l'action bénéfique de la police kényane pour la stabilité de son pays. Le premier ministre assure que la vie reprend doucement son cours à Port-au-Prince. William Ruto, lui, promet la réouverture des écoles prochainement. Mais l'attaque de Ponson dès la semaine dernière qui a fait 70 morts, rappelle que la stabilité est encore loin d'être acquise. La MMAS manque cruellement de moyens. Sur les 600 millions de dollars de budget annoncés, 135 millions font encore défaut. Les États-Unis sont le principal bailleur de la force avec 380 millions fournis. William Ruto et Gary Conny demandent donc plus d'efforts à la communauté internationale. Avant Nairobi, le premier ministre haïtien était aux Émirats arabes unis. Il assure y avoir sécurisé des engagements sans en donner le détail. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
RFI, vous écoutez Afrique Soir, 18h44 en temps universel. La COP29 sur le climat débute dans un mois précisément en Azerbaïdjan. 197 pays vont se réunir pour tenter de lutter plus efficacement contre les réchauffements climatiques. Le principal enjeu, c'est de trouver un accord sur un nouveau montant d'aide de la part des pays développés envers les pays pauvres. Le précédent objectif était de réunir 100 milliards de dollars chaque année. Il a été difficilement atteint. Aujourd'hui, les pays africains réclament au moins 1300 milliards de dollars par an. Pour Fatouma Hussein, conseillère du chef de la délégation africaine, les négociations s'annoncent difficiles avec les pays riches.
We were told by 2020 we will get 100 billion every year. But that has not happened.
On nous avait dit que d'ici 2020, on aurait 100 milliards de dollars chaque année, mais ça n'est pas arrivé. Et si certains rapports indiquent que ce montant a été atteint en 2022, c'est assez contestable parce que les pays du Nord comptabilisent tout et n'importe quoi comme étant de la finance climat. Donc ça a créé un grand problème de confiance. Et ce qui nous fait également douter des pays du Nord, c'est qu'ils cherchent toujours à se dédouaner de leurs responsabilités. Beaucoup de pays du Sud en voie de développement ont l'impression qu'il y a beaucoup de malhonnêteté de la part des pays développés quand il s'agit de mettre en œuvre ce qui a été convenu. Bien sûr, nous comprenons que cela va être difficile de réunir autant d'argent à eux seuls, qu'il faut trouver d'autres sources de financement. Mais ils ne proposent même pas de montant qui indiquerait à quelle hauteur ils pourraient contribuer. Cette COP29 va être un test décisif de tout le processus de négociation climatique.
Des propos recueillis par Jeanne Richard. Et puis après 5 jours de discussion, la contre-COP des populations africaines s'achève ce soir à Sali au Sénégal. 250 participants venus de 25 pays du continent ont parlé de la place des communautés africaines dans la réponse à apporter au changement climatique. À un mois de cette COP, une déclaration en 10 points a été publiée. Elle appelle notamment à la mise en place du système de réparation promis lors de la dernière COP, la fin des extractions de combustibles fossiles ou encore une réforme des lois foncières. Les participants exigent également une meilleure considération de la part des pays du Nord lors des discussions. On en vient au sport et au football. Le programme est dense au menu de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 avec 16 matchs ce vendredi. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Sylvie.
Et cette fin des matchs allés permet d'y voir un peu plus clair sur les futurs qualifiés. Et à Yaoundé, le Cameroun a fait un grand pas avec le carton de l'après-midi.
Une promenade de santé des Lions Indomptables lancée dès la 8e minute avec un pénalty du capitaine Vincent Aboubakar avant de s'emballer en fin de première période avec 3 buts en 4 minutes pour basculer à 3-1. À la pause, Christian Bassogog, le joueur le plus virevoltant du match, a ponctué son récital à la 55e en inscrivant le but du 4-1 d'une touche presque involontaire. Victoire nette pour les hommes de Marc Brice, seul en tête du groupe J avec 7 points, soit 2 de plus que le Zimbabwe.
Et parmi les autres résultats de l'après-midi, Babacar, il y a cette défaite mauritanienne au Caire.
L'Égypte s'est cassé les dents pendant une mi-temps sur les Mourabitounes, mais la force de frappe des Pharaons a fait la différence avec des buts de Trezeguet et Salah. Derrière les Égyptiens et leurs 9 points, Cap-Vert, Botswana et Mauritanie sont tous alignés à 3 points avant de basculer sur les matchs retour. Ouf de soulagement au Nigeria avec la victoire 1-0 acquise à la 87e face à la Libye. Les Super Eagles s'évitent un 3e nul de rang et devancent dans le groupe D des Béninois vainqueurs 3-0 du Rwanda.
Et puis dans moins de 30 minutes, le Sénégal lance l'après Aliou Cissé.
Face au Malawi, les Lions de la Teranga sont dirigés pour la première fois depuis mars 2015 par un autre sélectionneur que lui, en l'occurrence son ex-adjoint Pap Thiaw, un intérim qu'il ne faudra pas manquer alors que le Sénégal est pour le moment deuxième du groupe L, dominé par le Burkina Faso. Ce sera à 19h, temps universel, à la même heure dans le groupe I. Le Mali vit sa deuxième victoire face à la Guinée-Bissau avec l'espoir de récupérer sa première place. Le Gabon souhaiterait également obtenir son deuxième succès dans un groupe B où le Maroc est déjà qualifié. Quant aux champions d'Afrique ivoiriens, ils accueillent la Sierra Leone pour un potentiel carton plein de 3 victoires en 3 matchs qui dépasserait 5 points devant la Zambie, deuxième.
Merci Babacar Diarra. RFI Afrique Soir, 20h48 ici à Paris. Et 18h48 au Ghana, où nous nous rendons à Accra, la capitale du pays, qui est souvent présentée comme une ville folle qui vibre en permanence. Et un photographe l'a imaginé sans ses habitants. Et notre correspondant, Victor Cariou, a rencontré ce photographe ghanéen qui expose toute une série de clichés à Accra. Voici son reportage.
Sur cette grosse artère de la capitale règne un calme étrange, seulement perturbé par le passage de quelques passants ou trop. Une ambiance presque irréelle que l'on peut uniquement observer à Accra le dimanche matin, jour d'église et de repos pour la plupart des Ghanéens. C'est ce moment qu'a choisi Paul Ado, 34 ans, pour sortir avec son appareil photo.
On se trouve devant le Théâtre National. Il a été construit vers 1990. Je photographie ses lignes, son marbre. Ce sont ces choses qui m'intéressent.
Voilà 10 ans que Paul Ado sillonne le pays armé de son objectif. Une carrière débutée dans les mariages ou encore les festivals traditionnels après avoir grandi dans une ferme de la région centrale avec ses 4 frères et sœurs. Toujours entouré d'un fourmillement humain à l'image de sa ville d'adoption, Accra. Mais cet encombrement de personnes empêche par là même d'apprécier la réelle beauté de la capitale.
Parce que l'on est toujours très occupé à toujours se déplacer dans la ville et parfois on ne pense pas à faire une pause pour voir les petites beautés qu'elle a à nous offrir, son architecture, qu'elle soit vieille ou moderne. Donc je pense que ce que je fais en sortant le dimanche, c'est capturer ce que l'on néglige parfois.
Le rendu est stupéfiant. Sur ces photos, aucun humain à l'horizon. À travers son regard, Accra, la vibrante, se transforme donc en une sorte de ville fantôme, mais pourtant toujours multicolore et très vivante.
Quand vous faites attention à l'architecture uniquement, vous vous rendez compte que c'est très chargé, parfois même plus que dans un lieu avec beaucoup de personnes à l'intérieur. Quand vous regardez un bâtiment, vous pouvez voir pourquoi l'architecte a décidé de mettre un escalier à cet endroit. Vous pouvez regarder le design des fenêtres, des portes. C'est très loin d'être ennuyant. Parfois, je peux m'asseoir devant un bâtiment pendant très longtemps.
Plus qu'un hommage au travail des architectes, les clichés de Paul Adot témoignent aussi de la transformation rapide de la capitale.
Ça va très vite. Vous pouvez remarquer qu'il y a plein de nouveaux bâtiments qui sont construits. J'ai montré à mon père une photo d'un lieu très moderne à Accra et il m'a dit « Oh, Accra ressemble à ça aujourd'hui ?» Et je lui ai dit « Oui, c'est Accra ».
Prochain objectif pour le photographe, organiser sa toute première exposition en solo. Elle devrait se tenir début d'année prochaine, ici, à Accra. Victor Cariou, Accra, RFI.
Good evening, everybody. Ladies and people, please welcome Egypt 80. By the legacy of Fela Anikulapo Kuti.
Direction Marseille, où la 33e édition de la Fiesta des Suds s'est ouverte hier dans le sud de la France. Et comme chaque année, Hortense Vol, vous étiez sur place pour RFI. Bonsoir Hortense.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Oh oui, je suis fidèle au poste, car la Fiesta des Suds, Sylvie, c'est plus de 30 ans d'exploration des musiques des mondes et toujours une même ambition qui me sied, rassembler les gens, les genres et les générations. Le pari semble en tout cas une nouvelle fois réussi, Sylvie, puisque nous étions 8000 hier soir sur l'esplanade du J4 en bord de Méditerranée pour savourer une programmation qui jusqu'à dimanche mêle brûlantes découvertes, notamment Massaliot et artistes totémique.
Et parmi eux, Hortense, le Nigérian Sean Kuti, il était accompagné hier sur scène, non pas par son orchestre Egypt 80, mais par les frères Smith. C'est une figure incontournable de l'afrobeat hexagonal.
Oui, et sur scène aussi, deux danseuses et chanteuses nigérianes, Sylvie, qui ont largement contribué à la flamboyance du show. Sean Kuti vient de sortir son 5e album, Heavier Yet. Sur ce disque produit par Lenny Kravitz, 6 morceaux et 2 collaborations, l'une historique avec Damian Marley, l'autre très réussie sur le titre Emi Aluta avec la MC zambienne basée en Australie, Sampa the Great.
You know, with Damian, it was just like...
Vous savez, avec Damien, ça faisait trop longtemps. Les Kuti, les Marley et la musique contestataire, il était temps de terminer ça.
It's time. C'est le moment.
C'était le moment. Donc oui, ça s'est fait plus facilement que ce qu'on pourrait penser. Parce que Damien, c'est mon frère. Quand on s'est appelé, il était ravi de prêter sa voix au mouvement auquel nous appartenons tous les deux. À notre dynastie. Pour graver ce moment dans l'histoire, c'était important pour moi. Avec Sampa, on se connaît depuis longtemps. C'est une artiste visionnaire, très exigeante. Et nous avons enfin eu l'opportunité de travailler ensemble. Emi Aluta veut tout simplement dire l'esprit de la lutte. Et c'est une chanson qui appelle les esprits de nos ancêtres révolutionnaires pour nous inspirer de nouveau et nous faire avancer dans la lutte pour restaurer la dignité du peuple africain. Ebe, 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 ebe.
Sampa Above the Great sur RFI, ici en collaboration avec Sean Couty, qui était donc sur scène hier soir à Marseille, à la Fiesta des Suds.
Un événement, Sylvie, qui plus de 30 ans après avoir vu le jour sur la planète Mars a toujours la tête dans les étoiles, tout comme le natif de Dakar, MC Solar, qui a sorti cette année Lueur Céleste et Éclat Cosmique, les deux premiers volets d'un triptyque dont on attend la suite d'ici la fin de l'année. Avant qu'il ne monte sur scène, j'ai voulu savoir si Claude MC avait prévu de se produire bientôt chez lui au Sénégal.
Oh là 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 là. J'ai un Vincent là-bas au Sénégal que tous les Sénégalais, en tout cas tous les Dakarois connaissent, qui m'a envoyé un petit programme pour 2025. Je sais pas si je vais répondre positivement, mais j'ai très envie parce que la musique est extrêmement dynamique là-bas. Chaque fois que je vais dans un pays d'Afrique, je rencontre un des pionniers du hip-hop sénégalais, Awadi de Positive Black Soul.
Bien sûr.
Je vais à tel endroit, il est là. Je vais à tel endroit, il est là. Je retourne l'année d'après, il est là. Et donc, à chaque fois, il me raconte que c'est positif. Donc, c'est pas prévu pour 24, mais on a quelques ouvertures pour 2025.
Voilà,
si nous avons
une bonne nouvelle.
Ah oui, Hortense, en voilà une bonne nouvelle hein, pour vous qui nous écoutez à Dakar sur le 92 FM.
Elle se lève au petit matin, c'est une mannequin qui met du fond de teint. Survêt blanc, paire de Louboutin, elle est enfin prête pour le casting. Direction les transports en commun, elle dit bonjour monsieur, puis va dans son coin. Là le mec lui répond come on, pour lui c'est de l'anglais, cela veut dire viens. Mocassin, la Giscard d'Estaing, il a de grands pieds, de grandes dents et de grandes mains. Le chaperon ressent d'instinct, c'est un loup-garou, ça n'est pas un humain. Sache que pour éviter la cata, elle a les cacatos, elle connaît les katas, elle sort de son cabas. Une paire de batailles, puis lui envoie des kicks au nom de Marlène Chapa, c'est ding, ding,
ding, ding. La Fiesta du Sud, c'est jusqu'à dimanche sur l'esplanade du J4 à Marseille dans la cité phocéenne avec les concerts de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, de la rappeuse martiniquaise Meryl ou encore de l'artiste réunionnaise Maya Kamati. Maya Kamati avec qui nous allons refermer cette parenthèse marseillaise Hortense avant de la retrouver dans votre session musique spéciale Fiesta des Suds. Ce sera dimanche à 14h10 en temps universel sur RFI. Merci à Hortense Vol avec Benjamin Sarallier et Jérémy Bessé à Marseille pour les Fiestas du Sud. Merci de nous avoir suivis à la réalisation ce soir Quentin Moulin. Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir, Alexis Guilleux, Guillaume Bédrane et restez à l'écoute. L'info revient dans quelques instants sur la Radio du Monde. Bonne soirée.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Des voix engagées, des voix critiques, cette semaine rencontre avec Z. Architecte le jour, cyberactiviste la nuit, il a caricaturé les années Ben Ali. Aujourd'hui, il se sert de sa plume et de ses couleurs pour croquer avec ironie la Tunisie de Kais Saied.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.
L'Afrique en jeu, sport en légende.
Silver Henry Cissé.
Le basketteur américain Michael Jordan a marqué son époque comme nul autre sportif. Ce phénomène incarne aussi toutes les contradictions que nous n'aimons pas voir chez les dieux du stade. À découvrir dans une mise en récit samedi et analysée avec l'historien François Doppler-Speranza.
L'Afrique en jeu, sport en légende, avec Silver Henry Cissé, tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.